let's go all the way.
Jeff Caron.
Salut Jeff, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Très bien, j'ai hâte de lire ton livre sur l'Ukraine. Je connais pas le co-auteur, par exemple. Je l'ai reposté, j'ai fait un repost sur le Facebook de Morel Live, mais je le connais pas, j'ai vu le nom vite. C'est qui?
C'est un collègue qui enseigne dans une université de Zagreb, en Croatie.
Stip Buzar,
oui, c'est un professeur de sciences politiques, fait de philo-politique comme moi. Très compétent. Donc, ça sort en mars, puis j'en ai un autre qui sort à la fin avril sur le contrat social autoritaire. Puis, vous allez voir, au cours des prochaines semaines, j'ai fait un podcast avec Stéphane Bureau, qui devrait sortir dans environ 2 semaines. Et puis, je dois aussi participer à son émission à Télé-Québec à la fin du mois de février pour diffusion à peu près à la mi-mars.
Tu viens au Québec, là? C'est pas en Zoom?
Je viens à Montréal. Non, je vais venir à Montréal.
Ouais, mais tu viens-tu à Québec? Viens-tu faire un tour ici?
T'as-tu non, je vais juste rester à Montréal. Non, c'est ça. J'ai pas le temps. Malheureusement, je vais rester à Valérygrad. Mais j'ai aussi une série d'autres. J'ai aussi une série d'autres podcasts à faire avec différentes personnes à Montréal.
Ça
va vraiment être un in and out.
Mais est-ce que les perceptions changent à ton égard? Parce qu'on se souvient que tu t'es fait canceller par Ottawa. Gna gna gna, la radio poubelle de Montréal. C'est un pro-russe, c'est un pro-Poutine, on sait bien. On dirait que les perceptions commencent à changer. Qu'en dis-tu?
Non, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est une visite qui a fait jaser.
Quelle visite qui a fait jaser?
La visite à l'émission de Stéphane Bureau.
OK, mais elle n'est pas tapée, là. Tu viens la taper, là.
Oui, c'est ça. Donc, ça va être enregistré. Puis, s'ils veulent, ils feront du montage.
Non, mais c'est une visite qui a fait jaser, mais n'a pas eu lieu encore.
Non, c'est ça. Ben, la visite, elle commence déjà à faire jaser, même si c'est.
OK, l'invitation, on devrait dire. L'invitation fait jaser.
Ouais. Par contre, Stéphane Bureau a la décence de ne pas faire comme le président du comité parlementaire à Ottawa. Donc, quand les invités sont mal à l'aise d'être avec moi, ben, il leur dit c'est ton problème, hein, tu n'as juste à pas venir.
Donc, il y a des invités qui ont annulé suite à ton éventuelle présence.
Mm-hmm.
Tu vas en faire une chronique éventuelle? Tu n'as pas le goût d'en parler ce matin?
Oui. Ça
prend des mondes fragiles. Tu ne peux pas en parler, je connais. Je vais arrêter de te questionner là-dessus, mais il y en demande pour moi qu'il faut être vraiment fragile. Parce que regarde les panels français, je regarde ça à tous les jours. Puis surtout CNews, là, mais je regarde tout. Là. BFM, tout, LCI, peu importe, là, je m'en fous. Il y a des collisions, là. Il y a des collisions régulières, là. Puis, il y a des pro-Trump, des anti-Trump. On parle beaucoup de Minneapolis en France, là. Puis, il n'y a pas personne qui claque la porte. Je te parle plus! Je reviens plus! Voyons donc. Ça marche pas comme ça. Qu'est-ce que ça dit, ça, sur le Québec et sur les plateaux?
Ben, j'ai toujours dit, Québec, c'est pas une société. Une société est capable d'accepter les débats puis la dissension. À l'inverse, le Québec est une communauté. Donc, on est tissé serré, on pense tous de la même façon, parce que si ce n'est pas le cas, on va s'affaiblir d'une manière quelconque. Mais il y a encore une logique de censure qui prédomine malheureusement dans les médias. Puis ça s'explique en grande partie.
Oui.
La dichotomie, t'sais, la tension entre les médias traditionnels puis les médias alternatifs. T'sais, faut comprendre là, la nature du problème, parce que les médias alternatifs, vous le savez, ils menacent le gagne-pain des médias traditionnels, puis d'ici une couple d'années, c'est les médias alternatifs qui vont gagner. Donc, les gens qui sont dans les médias alternatifs, ben ils sont barrés des médias traditionnels. Puis je pense que j'en ai déjà parlé. Il y a une couple de mois, j'avais reçu une invitation d'un journaliste de Radio-Can. Puis moi, je me dis, pauvre gars, il n'est pas au courant que la direction de l'information a une liste noire. J'ai accepté l'invitation en sachant très bien que l'entrevue n'aurait jamais lieu, puis le journaliste n'a jamais donné suite à sa propre invitation, parce que quand la demande est montée à la direction de l'information, ils se font dire « Ben non, vous invitez pas Caron, il est pro-russe. » Puis Radio-Can, c'est pas le seul réseau où je suis considéré comme un pro-russe, mais je trouve ça vraiment pathétique, parce que c'est la logique de François Fournier qui dénonce, c'est la logique NPC. Les gens, ils m'ont jamais entendu, ils n'ont jamais lu ce que j'ai écrit, mais s'ils ont entendu dire que je suis un ci ou un ça, ben ça leur suffit. Puis pour se faire une tête sur moi, puis c'est final bâton, merci, bonsoir. C'est pathétique, là, en réalité.
Mais, c'est petit. Hey, parlons de Davos. Juste après toi, on va aller rejoindre Ezra Levant qui revient de Davos. Ezra Levant qui a fait un travail extraordinaire encore une fois. Du travail de rue, c'est du travail de journalisme, de courir après les élites et de leur poser des questions, ce qu'il a fait avec, entre autres, Jolie et Freeland. Mais moi, je veux jaser du discours de Carney. Le paraît-il qu'il reculait un peu au téléphone avec Trump. C'est sûr que Trump a dû crier après. Il s'est fait friser les oreilles par Scott Bessent et toute la gang. T'en as pensé quoi? Évidemment, tous les feluettes de Montréal, t'as tout en pamoison. Oh, quel discours, je l'ai lu, je l'ai relu. Mais ça fait pouette-pouette, son affaire, là.
Oui, oui. Ben écoute, c'est ça. Depuis la semaine dernière, tout le monde est pâmé sur son discours à Davos. Ça a été le sujet de l'heure sur tous les plateaux en France, au Canada, puis même ici en Arménie, où mes collègues puis les étudiants, ils m'en ont tous parlé puis ils en ont tous fait l'éloge. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense de son discours, puis je le résumerai en deux mots. Incohérent, puis hypocrite. D'abord, pourquoi je le trouve incohérent? Donc, dans son discours, Carney, puis c'est son mérite ici, puis je lui accorde volontiers, il a dressé un portrait tout à fait précis de l'ordre mondial actuel, puis il a dit deux choses, puis je le cite rapidement. Il semble que chaque jour nous rappelle que nous vivons une époque de rivalité entre grandes puissances, que l'ordre fondé sur des règles s'estompe, que les forts peuvent faire ce qu'ils veulent et que les faibles doivent subir ce qu'ils doivent. Avant d'ajouter la chose suivante, nous sommes au milieu d'une rupture, pas d'une transition. Au cours des deux dernières décennies, une série de crises dans les domaines de la finance, de la santé, de l'énergie, de la géopolitique ont mis à nu les risques d'une intégration mondiale extrême. Mais plus récemment, les grandes puissances ont commencé à utiliser l'intégration économique comme arme, les tarifs douaniers comme levier, l'infrastructure financière comme moyen de coercition, les chaînes d'approvisionnement comme vulnérabilité à exploiter. Donc, je pense qu'ici, il résume admirablement bien la situation. Le paradigme issu de la fin de la guerre froide est terminé, puis on est en train d'entrer dans un moment de crise qui va un jour mener à la mise en place d'un nouveau paradigme. Mais ça, tu sais, tout le monde en convient, là. Ça n'a rien d'original. Même Olivier Niquette, là, il a compris que c'est en train de se passer. Fait qu'on est rendu à ce niveau-là, ça veut dire que tout le monde a compris. Donc, le monde ancien, qui était un monde organisé autour d'organisations qui favorisaient le multilatéralisme, puis les grands principes du droit international, est donc révolu. C'est ce que Carney dit dans son discours. Donc, la souveraineté, la non-ingérence, le recours à la force, ça ne veut plus rien dire. Puis l'ONU est devenue une force impuissante à régler les conflits et qui est peut-être appelée à être remplacée par des organisations plus atypiques, contrôlées par des empires, comme le Conseil de la paix de Trump. Donc, face à ce monde-là, Carney parle d'une politique étrangère canadienne qui doit être un équilibre entre le pragmatisme et la défense de valeurs. Or, c'est quoi les valeurs dont il fait mention? Le respect de la souveraineté, le respect de l'intégrité territoriale des États, puis le recours à la force uniquement lorsque celle-ci est conforme à la Charte de l'ONU. Or, c'est là où le bas blesse. Carney affirme lui-même que ces principes-là sont révolus, mais il souhaite néanmoins en faire l'arc-boutant de sa politique étrangère. Ça ne fait aucun sens, là. Ça revient à créer une politique étrangère qui est complètement anachronique, d'où son incohérence totale. Moi, je trouve ça vraiment étonnant que personne ait relevé ce point-là. Je veux dire, ça revient à fonder une politique industrielle sur la machine à vapeur puis les chevaux. C'est complètement ridicule. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Puis deuxièmement, ben, l'hypocrisie. T'sais, il affirme dans la même veine que la politique étrangère canadienne doit également reposer sur la défense des droits de l'homme. OK, super, très bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait la semaine d'avant? Il s'est rendu en Chine puis au Qatar pour signer des accords.
Oui.
Fait que là, soyons honnêtes, en termes de respect des droits de l'homme, on repassera avec la Chine puis le Qatar. Mais ça veut dire deux choses. Soit c'est de la frime, puis il s'en sac comme de l'an 40, ou bien il place la barre du respect des droits de l'homme tellement basse que les seuls pays avec qui on devrait jamais faire affaire...
C'est l'Afghanistan.
Ça se résume essentiellement l'Afghanistan puis la Corée du Nord.
Ouais.
Donc, dans les deux cas, on a affaire à un propos qui est complètement hypocrite. Donc, en résumé...
Et aucun mot sur BlackRock. Mais rappelons que BlackRock fait de la grosse business en Chine et au Qatar.
Oui.
Pas de journaliste questionne ça, en passant.
Non, parce que tout le monde est pâmé. C'est la forme. Il a tenu tête à Trump dans son discours. Donc, les gens en sont nés à oublier le contenu.
Qu'est-ce
donc,
que Trump a détesté le plus dans son envolée lyrique?
C'est qu'il lui a ouvertement tenu tête. C'est ça qu'il lui a reproché. Puis il lui a dit à Davos le lendemain, il dit « Mark, souviens-toi que le Canada n'existe que grâce aux États-Unis. Fait que la prochaine fois que tu vas aller à l'étranger pour faire des discours, j'espère que tu vas t'en souvenir. » 80% du commerce international du Canada, ça dépend des États-Unis. Si Trump, demain matin, décidait d'imposer des tarifs de 100 % de 200 % à toutes les exportations canadiennes...
Un fifi et nini.
Il met l'économie canadienne à terre en l'espace de quelques jours, là. Puis c'est ça que Carney semble pas vraiment réaliser, qu'une grande partie de l'opinion publique canadienne semble pas vraiment réaliser. Les États-Unis ont les moyens de nous faire faire tout ce qu'ils veulent, là. Puis il va peut-être falloir un moment donné finir par l'accepter. Donc, les gens qui voient dans le discours de Carney un discours historique, ben, à moins qu'on le résume uniquement à sa vision précise du monde de 2026, son discours n'a rien d'original. C'est un discours qui est aussi original qu'un T-shirt blanc. Fait que, tu sais, l'excitation autour de ce qu'il a dit, ça se justifie pas. C'est le résultat d'une construction médiatique à une ère où on célèbre à peu près n'importe quel gus qui ose s'opposer à Trump. Fait que, tu sais, les gens qui ont comparé Carney à Churchill, là, je m'excuse, là, mais on repassera. Donc, c'est un discours complètement incohérent. Il se contredit lui-même. Puis en plus, par ses actions de la semaine précédente, il prouve juste que ce qu'il dit, c'est carrément hypocrite, là. Mais bon, ça a été bien vendu par les médias. Puis on s'attendait pas à ça non plus à l'international, là. T'sais, depuis 10 ans, c'était Justin avec ses bombes multicolores.
Qu'est-ce qu'il faisait là, d'ailleurs? C'est quoi son but de retourner là puis de refaire des discours? T'es parti, man! C'est quoi le but de Trudeau? Que veut-il? Est-ce qu'il prépare un éventuel retour à quelque part?
Lui, tout ce qui l'anime dans la vie, c'est de bien paraître. C'est paraître, le paraître, avec sa nouvelle blonde, là. C'est juste ça qu'il voulait.
Là, il est peut-être porte-parole d'un groupe féministe, là, Women First, là, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas.
Mais non, mais regarde, il était dans le portrait pendant 10 ans.
Oui, c'est du showbiz.
C'est ça. Puis il n'est pas capable de se mettre en arrière des rideaux parce qu'il carbure à ça. Il n'y a pas de contenu.
C'est assez honteux de se montrer à face suite au jugement de la cour concernant un trucker aussi. Là.
C'est un country club Davos. Puis Justin Trudeau en fait partie.
C'est ça. C'est un membre honoraire. Puis il est allé se montrer la face, il est allé serrer des mains avec ses anciens chums. Mais c'est de la frime, c'est de la parure. Là. Puis effectivement, le fait qu'il soit allé se pointer là, dans les jours qui ont suivi la décision du tribunal fédéral sur l'imposition de la loi sur des mesures d'urgence, c'est honteux. T'sais, le gars, il a suspendu les droits et libertés.
Il rit de ça.
Alors que c'était... Il s'en sac. Il n'a même pas la décence de s'excuser. Ou même, à la limite, s'il ne s'excuse pas, de malgré tout dire « Je suis en désaccord avec la décision du tribunal et voici mes raisons. »
Baveux.
Non, le sourire, là, puis Ezra Levant, lui, essaie de le forcer à répondre à des questions.
Alors,
puis, I'm so happy to see you, Ezra. Idiot, c'est un insignifiant.
Ah, ouais.
Puis il a représenté le Canada depuis 10 ans. Donc, c'est pour ça que Carney, aujourd'hui, il y a toutes les spotlights sur lui, parce qu'après 10 ans d'insignifiance, ben, vous avez quelqu'un d'autre qui semble être en mesure d'avoir une vision assez claire et précise de ce qui se passe dans le monde. Donc, il détonne. Fait qu'évidemment, le spotlight va être sur lui parce qu'il semble évidemment extrêmement intelligent, parce que n'importe qui, en comparaison à Trudeau, ne peut qu'avoir l'air intelligent.
T'as raison. Hey, merci beaucoup, Jean-François.
Bonne journée. Merci beaucoup.
J'ai hâte de t'entendre sur ta parution à l'émission de Bureau. On s'en reparle. Bye-bye.
On s'en reparle. Bye.
Salut, bye. 9h31. On parlait d'Ezra. On va le rejoindre en revenant. À moins que tu aies quelque chose de
majeur?
Oui.
La nouvelle la plus majeure qui est tombée ce matin, c'est qu'Eddie Van Roberge appuie Robin. Le Minnie Mouse. Pascaro. Madame Fréchette.
Wow, quelle surprise. Je me sens une claque d'en face, par exemple, à Drainville, alors qu'il se l'est joué laïcité, puis la laïcité, puis les écoles musulmanes, puis blablabla. Eddie! Drainville, il doit prendre ça personnel.
Absolument,
pareil, pour vrai.
Absolument.
C'est une claque. C'est une claque.
Absolument. C'est...
Eddie qui veut une job. Parce qu'elle va arriver, elle va être choisie, élue, elle va arriver avec un nouveau gouvernement. Eddie veut une job.
On va tuer le projet de troisième lien, ça c'est clair.
Oui.
Ça c'est définitif. Donc à partir de maintenant,
il y a juste du M. Si vous voulez troisième lien, c'est du M.
Si vous voulez un troisième lien, puis si vous voulez qu'on envisage peut-être l'idée de mettre un frein au projet de train, il y a juste un parti. Il y en a juste un.
Exactement.